Actes des Apôtres, livre des Luc, l'évangéliste, continue dans ce livre le récit du christianisme, commencé dans l'évangile qui porte son nom. Ce sont donc les actes du Christ ressuscité et glorifié. Ici, nous trouverons aussi les actes du Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera, par sa présence et sa puissance, le révélateur et l'agent régénérateur de tous ceux qui auront cru. Un adversaire surnaturel, Satan, s'y trouve aussi dévoilé par ses activités néfastes et son obstruction au progrès de l'Évangile. Ce livre nous montre, enfin, comment les apôtres se déchargèrent de la mission qui leur avait été confiée. À la Pentecôte, l'Évangile est annoncé aux Juifs et plus tard aux Gentils, dans la maison de Corneille. D'abord, à Jérusalem, ensuite jusqu'au bout de la terre, et le livre se termine par la prédication de l'Évangile à Rome. Les actes se divisent en trois parties. 1. Chapitre 1 à 7, le témoignage à Jérusalem, la venue du Saint-Esprit et la formation de l'Église, l'Évangile rejeté par les Juifs. 2. Chapitre 8 à 12, le témoignage à Samarie, la conversion de Saul et le témoignage de Pierre à Césarée. 3. Chapitre 13 à 28, le témoignage porté aux Gentils. Le ministère de Paul. Étude sur le livre des Actes. Cinquième livre du Nouveau Testament qui paraît la suite logique de l'Évangile de Luc et se trouve en effet généralement attribué à ce même auteur pour l'essentiel du texte dont nous disposons aujourd'hui. Comme le troisième Évangile, Luc 1.1 ou 4, il est dédié à un certain Théophile, acte 1.1, en qui la plupart des commentateurs reconnaissent quelque dignitaire converti par la prédication des disciples du Christ, mais c'est bien sûr à tous les lecteurs en quête de la bonne nouvelle qu'il s'adresse. Il propose une histoire, nullement exhaustive mais solidement fondée sur les faits les plus riches d'enseignements, du premier âge de l'Église, depuis l'ascension de Jésus jusqu'à la première captivité de Paul à Rome dans les années 61 à 63. Parce qu'il ne mentionne pas, du moins en termes clairs, la libération de l'apôtre après les deux années entières, actes 28.30 au 31, qu'il passa alors en résidence surveillée, ni ses faits et gestes ultérieurs, l'ouvrage doit probablement être daté au plus tard de l'an 63, bien que certains l'estiment composé dans les 20 dernières années du 1er siècle. La qualité de sa langue dans les versions grecques que nous connaissons, sûrement les plus proches du texte original quelle que soit la famille, originale ou occidentale à laquelle elles appartiennent, fait l'admiration des spécialistes. Ceux-ci y décèlent pourtant ça et là des sémitismes ou des tournures trahissant en certains passages l'utilisation de sources hébraïques ou araméennes, traces d'authenticité. Plutôt que des actes des apôtres, c'est d'actes de certains apôtres qu'il s'agit. Surtout de ceux que la tradition chrétienne nomme les princes des apôtres, Pierre et Paul, et seulement de manière incidente de Jean ou de Jacques par exemple, parmi les douze. Encore le souci d'établir une biographie des deux premiers est-il étranger à l'auteur? D'évidence il s'attache avant tout à montrer comment, autour de Pierre, l'Église du Christ s'organise, s'affirme et rayonne à partir de la terre sainte dont Jérusalem est le cœur, acte 1 à 12, puis, avec Paul, à travers le monde romain tout entier, image de l'univers pour les lecteurs du temps, actes 13 à 28. Et l'évangile du Saint-Esprit. Du premier au dernier chapitre, tout le livre, appelé parfois pour cette raison évangile du Saint-Esprit, vibre au souffle de l'Esprit divin promis par le Christ à ses disciples avant qu'il ne soit lui-même enlevé vers le ciel, actes 1.4 au 11, et qui fut reçu par eux au jour de la Pentecôte, actes 2.1 au 4. Le premier discours de Pierre à la foule réunie à Jérusalem pour la fête juive, acte 2.14 et suivant, annonce le commencement de la réalisation d'une prophétie de Joël prêtant sa voix à Dieu, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », Joël 3.1 au 5. Ceux qui demandent le baptême au nom du Christ reçoivent ce don, acte 2.38, que l'on voit plus loin accordé en plénitude aux nouveaux baptisés par l'imposition des mains de Pierre et de Jean par exemple, acte 8.15 au 17, geste renouvelé par Paul aux mêmes fins, acte 19.6. L'Esprit Saint descend à l'appel de la prière, acte 4.31, et sur tous ceux, juifs ou non-juifs, qui ouvrent leur cœur à l'enseignement qu'il inspire, acte 10.44 au 15.8 au 9. Il apporte à qui il a reçu les pouvoirs, acte 2.4, 6.8, la lumière, acte 4.2, 13.9 au 10, la force, acte 4.31, la joie, acte 13.52, la sagesse, acte 15.28, toutes les grâces utiles à la sanctification de chacun et, à travers lui, au rayonnement de sa foi qui tend à la sanctification des autres. Pour l'auteur inspiré des actes, le Saint-Esprit n'est pas une de ces puissances obscures dont l'étude psychologique des individus ou des foules découvre la source. Il s'impose bien personnalisé. C'est lui qui par exemple parle par la bouche de David, acte 1.16, comme de tous les prophètes, lui qui s'adresse au diacre Philippe, acte 8.29, ou à Pierre, acte 10.19, ou aux responsables de la communauté chrétienne d'Antioche, acte 13.2, comme à tous ceux qui œuvrent dans l'Église. Lui qui dirige vers le champ d'action les missionnaires de l'Évangile, acte 13.4, 16.6 au 7. Lui qui décide de leur sort et de la manière dont ils doivent témoigner de leur foi, acte 20.22, 21.11. Et sa personne est Dieu, lorsqu'Ananiamant à l'esprit, Pierre lui dit en clair que ce n'est pas aux hommes qu'il a menti, mais à Dieu, acte 5.3 au 4. La divinité du Christ, si étroitement liée à l'esprit qu'il dispose de sa venue, acte 1.5, 8, et répand lui-même ses grâces, acte 2.33, n'est aussi clairement affirmé que dans le passage sur l'enseignement de Paul à Damas, il proclamait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, acte 9.20, encore nombre de commentateurs attribuent-ils seulement à cette expression le sang que lui donne le grand prêtre Caïphe interrogeant Jésus traîné à son tribunal, « Je t'adjure de nous dire si tu es, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messie attendu, MT 26.63. » Mais dans tous les passages des actes qui évoquent le Christ, ses titres et ses œuvres attestent son caractère divin. Il est le chef de la vie, acte 3.15, le Seigneur de tout, acte 10.36, celui par la grâce de qui, nous croyons être sauvés, acte 15.11, car le salut n'est en aucun autre, acte 4.12, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, acte 16.31. Le diacre Étienne le sait bien, qui s'écrit au terme de son martyre, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, réplique exacte de la suprême prière du crucifié, Luc 23.46, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Le Père et Jésus son Fils sont bien le seul et même Dieu. Ce Dieu à qui juifs et grecs sont invités à se convenir et appelés du même coup à croire au Seigneur Jésus, acte 20.21, tant sont une ni l'un et l'autre. Ainsi, appelé Seigneur, comme l'Éternel dans les autres textes grecs de l'Écriture, le Fils, qui comme tel tient tout du Père, exerce d'évidence des pouvoirs divins. C'est au nom de Jésus que les apôtres opèrent des miracles, acte 3.6, 9.34, 16.18, c'est Jésus qui est établi juge des vivants et des morts, acte 10.42, 17.31. Quiconque croit en lui reçoit par son nom la rémission de ses péchés, acte 10.43. Durant sa vie terrestre, les scribes ou docteurs de la loi ne se trompaient pas sur la signification d'un tel privilège, qui peut remettre les péchés, si ce n'est Dieu seul, Marc 2.7, confère MT 9.3. S'il fallait un autre témoignage sur la nature divine de Jésus, on le trouverait dans les propos de Paul à l'adresse des responsables de la communauté chrétienne d'Éphèse, l'apôtre leur recommande l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang, acte 20.28, c'est-à-dire par celui de Jésus-Christ répandu sur la croix. Audacieuse expression où les pères de l'Église des premiers siècles ont reconnu l'affirmation de la divinité du Christ en même temps que de son authentique humanité, le sang de l'homme crucifié au Golgotha est dit le sang de Dieu. L'Église du Christ est donc bien sûr l'Église de Dieu. Nous la voyons se détacher peu à peu de la synagogue à mesure que s'accroît le nombre des convertis non circoncis, directement issus du paganisme. C'est tout naturellement d'abord aux Juifs de la Palestine ou de la dispersion que s'adresse la prédication des apôtres, de Jérusalem, acte 2.5 au 41, jusqu'à Corinthe, acte 18.1, ou Rome, acte 28.17 au, en passant par Damas, acte 9.20 au, Antioche, acte 11.19, Thessalonique, acte 17.1 au 4, ou Éphèse, acte 18.19 au 21, par exemple. Durant des années, les apôtres eux-mêmes continuent à fréquenter assidûment le temple où d'ailleurs exercent encore leur ministère une multitude de prêtres juifs obéissant à la foi chrétienne, acte 6.7. Mais très vite des non-juifs demandent le baptême du Christ. Soit parmi les craignants Dieu déjà gagnés au monothéisme judaïque, tel le haut fonctionnaire éthiopien baptisé par le diacre Philippe, acte 8.27 au, ou le centurion Corneille que Pierre baptise à Césarée avec ses parents et amis, acte 10. Soit parmi les Grecs en général, c'est-à-dire tous les habitants du monde civilisé par l'hellénisme, prosélytes du judaïsme ou non, acte 11.20 au 21, 14.1, 17.17 au 18, 34, 19.9 au 10, 17, etc. Avant que les barbares eux-mêmes, Romains 14, ne soient appelés à se joindre au nouveau peuple de Dieu qui ne connaîtra plus de Grecs ou de Juifs, de circoncis et d'incirconcis, de barbares, de scythes, d'esclaves ou d'hommes libres, mais seulement le Christ qui est tout et en tout, Col 3.11. Et l'ouverture ne va pas sans l'heure. Il faut à Pierre une vision que commente la voix divine, acte 10.11 au 16, pour l'éclairer sur la désuétude des interdits alimentaires imposés par la loi mosaïque et sur la liberté d'accès, sans réserve, des non-juifs à la communauté chrétienne, Il devra d'ailleurs convaincre à son tour à Jérusalem ceux de la circoncision, Actes 11:18, qui, autour de l'apôtre Jacques, resteront longtemps fidèles à la coutume de Moïse, Actes 15:5, et zélés partisans de la loi ancienne, Actes 21:18. L'assemblée, ou peut-être les assemblées, dont l'auteur des Actes, Actes 15, rend compte globalement et que la tradition désigne sous le nom de Concile de Jérusalem, définit sur ce point avec une sage prudence la position de l'Église primitive, juifs et non-juifs ont les mêmes pairies, villages, les mêmes devoirs et les mêmes droits à la grâce, si les non-juifs sont encore invités à s'abstenir de la chair étouffée et du sang, Actes 15:20, c'est au nom de la charité pour leurs frères judaïsants et par esprit de soumission à l'autorité apostolique, non en vertu des prescriptions de la loi de Moïse. L'Église du Christ. La loi nouvelle a ses propres mystères, mots que nous traduisons par sacrement. Les rites de quatre d'entre eux sont évoqués dans le livre des Actes. D'abord le baptême qui marque l'entrée du nouveau chrétien dans l'Église, Actes 2:37-41, 8:12-13, 36-38, 10:47-22:16, distinct du baptême de Jean le précurseur, Actes 19:1-5, distinct aussi du don confirmé de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains qu'administrent seulement les principaux chefs de l'Église tels Pierre et Jean, Actes 8:14-17, ou Paul, Actes 19:6. C'est aussi par l'imposition des mains qu'est conféré le pouvoir d'ordination à ceux qui sont appelés à quelques degrés au ministère apostolique, Actes 6:6. La fraction du pain, qu'on appelle aussi repas du Seigneur ou scène, ce repas est pris pour commémorer le dernier que Jésus prit avec ses disciples. On découvre dans les mêmes textes et dans le même temps la structuration de l'Église du Christ dans la société terrestre, et celle de ses communautés chrétiennes qui en constituent les cellules, les églises. Les apôtres, qui ont reçu directement du Christ leur pouvoir et leur mission, Actes 1:8, en sont les premiers chefs et en demeureront les principaux. Ils sont reconnus comme tels par les premiers persécuteurs des chrétiens, Actes 4:1-18, 5:16-41, aussi bien que par l'ensemble de ceux-ci, Actes 5:35. Ils convoquent l'assemblée des disciples et consacrent les diacres, Actes 6:2-6, qui les assisteront. Ils appellent sur les baptisés le don de l'Esprit-Saint, Actes 8:14-17, et président aux décisions les plus importantes en matière de doctrine et de discipline, Actes 15:2. Pierre est bien le premier d'entre eux, qui décide le complètement du collège apostolique, Actes 1:15, où Matthias remplacera Judas, et parle d'abord à la foule en présence des onze, Actes 2:14 et suivant, devant le Sanhédrin au nom de Jean comme de lui-même, Actes 4:8, ou au nom de tout, Actes 5:29. C'est lui qui est appelé le premier à prendre position sur la question capitale de l'admission des non-juifs, incirconcis, dans l'Église, Actes 10:11-18, son intervention, Actes 15:7-11, ses cédilles, s'avère déterminante dans les décisions du Concile de Jérusalem. Il ne faut certes pas serrer de trop près les termes employés par l'auteur des Actes pour désigner les responsables des églises exerçant leur ministère sous l'autorité des apôtres, leur sens ne paraît ni très constant ni parfaitement défini. Mais il ne fait pas de doute que les anciens, pasteurs ou presbytes, Actes 11:30, 14:23-22 selon les versions, 15:2, 4,6 etc. 20:17, 28, voire les prophètes et docteurs, Actes 13:1, esquissent la hiérarchie ecclésiastique des siècles suivants. Ainsi ce livre, peut-être inachevé, mais si vivant et si riche de doctrine et d'histoire, témoigne-t-il de la continuité sans faille entre Jésus ressuscité et son Église qui ne mourra jamais.